Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ses.
Raconte ça.
Yay!
Ses. Raconte sa life, épisode 11. Faut-il faire vacciner nos enfants contre le Covid-19? Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode sur le podcast. Épisode qui n'a absolument rien à voir avec les derniers que vous avez pu entendre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. On va parler du vaccin anti-Covid et des enfants. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis, le vaccin vient d'être autorisé pour les 5-11 ans. Et du coup, c'est clairement un sujet d'actualité. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule pour faire cet épisode parce que je n'ai aucune expertise dans le domaine. Je suis accompagnée d'Océane. Océane, avec qui j'avais déjà fait une IGTV sur Instagram en début d'année, je crois, où on avait répondu à vos questions sur le vaccin, mais c'était plus vaccin au niveau des adultes, parce qu'à cette époque-là, il n'était pas encore question des enfants. D'ailleurs, cette vidéo est toujours disponible si vous voulez aller l'écouter. Mais voilà, aujourd'hui, l'enjeu est différent puisqu'on parle des enfants, et s'il a été parfois compliqué de prendre la décision pour soi-même, quand il s'agit de nos enfants, évidemment, la question est encore à un autre degré d'inquiétude et de questionnement. Donc aujourd'hui, je suis avec Océane. Je vais te laisser te présenter et nous dire en quoi tu es légitime de parler de ce sujet aujourd'hui.
Oui, merci. Alors moi, je m'appelle Océane. Je suis docteur en virologie. J'ai un doctorat de viro que j'ai fait dans un labo d'immunologie de vaccinologie. J'ai fait ensuite deux post-doctorats aux États-Unis, dans des labos qui travaillent sur des virus humains. Et désormais, je développe des vecteurs viraux pour la thérapie génique. Voilà. Et c'est à peu près tout.
D'accord. Et on précise quand même que ni elle ni moi n'avons d'intérêt ni financier ni professionnel de parler et de faire la promotion ou quoi du vaccin anti-Covid. Vraiment pas. De toute façon, nous incitons personne à se faire vacciner. Nous disons en fait, enfin, Océane va retranscrire ce que dit la science aujourd'hui à ce sujet. Mais évidemment, chacun fait ce qu'il veut concernant sa santé et ses enfants en l'occurrence. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, que les parents peuvent se poser, qui n'ont pas forcément toutes les informations pour répondre à cette question, c'est est-ce que d'après la science, aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire vacciner nos enfants? Oui, non, pourquoi?
Alors, déjà, ce que je voulais dire, c'est que la balance bénéfice-risque qui a été évaluée, elle a été évaluée aux États-Unis pour les enfants américains. Donc, ce ne sera pas forcément l'évaluation que va faire l'Agence européenne du médicament, qui n'a pas encore fait son évaluation et qui est en train de le faire et qui va rendre ses conclusions dans quelques semaines. Donc, ça, c'est vraiment les autorités de santé qui décident de recommander ou non la vaccination pour telle ou telle population. En fonction des facteurs de risque de population, de la circulation du virus sur le territoire, des chiffres d'hospitalisation, etc. Ça peut être assez variable. Donc, je vais parler vraiment pour les États-Unis, parce que ce sont les données américaines qui ont été évaluées. Donc, voilà. Donc, oui, la FDA, le CDC, qui sont les autorités de santé américaines ici ont évalué le vaccin anti-Covid Pfizer, parce qu'il n'y a que Pfizer qui est disponible pour les enfants de 5 à 12 ans, comme étant. Ils sont favorables à la vaccination de ces enfants, de cette tranche d'âge-là. Et la raison, elle est simple, c'est que la balance bénéfice-risque a été évaluée comme penchant du côté du vaccin pour cette tranche d'âge-là. Ils ont mis en balance les bénéfices du vaccin, les risques liés à ceci, ainsi que les risques liés au Covid pour les enfants. C'est important de le dire que pour cette tranche d'âge, ils n'ont pas. Parce qu'on entend souvent dire que oui, on vaccine les enfants pour protéger les plus âgés. Alors oui, indirectement, au final, on limite la circulation du virus, donc oui, indirectement, on protège les plus âgés, mais la balance bénéfice-risque, elle a été évaluée pour cette tranche d'âge-là, de 5 à 11 ans, et non pas pour protéger les plus âgés. Donc c'est vraiment les bénéfices directs pour les enfants.
D'accord. C'est bien de le préciser, ouais.
Ouais, c'est bien de le préciser, c'est un truc qui revient souvent. On pense vraiment qu'ils ont fait ça uniquement pour protéger les plus âgés, alors que non, c'est vraiment pour protéger les enfants. Parce qu'on pense souvent que les enfants ne risquent rien. Ce n'est pas vrai. Il y a des enfants qui sont... La grande majorité d'entre eux, évidemment, s'en sort très bien quand ils sont infectés par le virus qui cause le Covid. Mais il y a des enfants qui ont été hospitalisés, des enfants qui ont fait des formes graves, des enfants qui ont été aux soins intensifs et des enfants qui sont décédés. Donc, ce n'est pas vrai de dire qu'il y a zéro risque pour les enfants. C'est pas vrai. Il y a des enfants qui font des Covid longs aussi, ça, on en parle un peu moins. Mais il y a des enfants qui ont des séquelles de Covid. On ne sait pas encore exactement combien, ni à quel degré, mais... Il y a des enfants qui traînent des symptômes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ça, c'est comme les adultes d'ailleurs. Et ça, on n'en parle pas, ils ne rentrent pas forcément dans les statistiques. Donc voilà.
Parce que c'est vrai que souvent, on parle du manque de recul par rapport au vaccin, mais il faut aussi souligner qu'on a aussi un manque de recul total par rapport au virus.
Ah ben ça, c'est clair. On ne sait pas encore si les Covid l'ont récupéré, si les gens... Combien de personnes ont été touchées par ce Covid long, parce que c'est difficile de différencier quels sont les symptômes du Covid long d'autres maladies chroniques, par exemple, etc. On a vraiment pas beaucoup de... Enfin, on commence à en avoir, mais c'est un virus qui n'a même pas 2 ans, donc c'est difficile d'avoir des retours encore sur le... justement, sur les vraies conséquences liées à l'infection par le virus.
D'accord. Et il y a une donnée qui est sortie cette semaine, d'ailleurs, que tu as partagée sur ton Instagram. Instagram qui est The French Virologist. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Là, moi, je ne suis pas encore dans la... Je peux partager sur mon podcast le lien sans problème, alors qu'on ne peut plus actuellement te partager sur Instagram. Tu as partagé une donnée qui est sortie la semaine dernière, je crois, qui disait que le Covid... aux États-Unis, sur les enfants, était la 8e cause de décès en 2021, en 2020
Je ne sais plus exactement les chiffres. Ils ont pris les chiffres de l'année dernière, je pense. Hein. Toutes ces données-là, ce sont des données qui sont sorties lors des meetings de la FDA, enfin, du VRBPAC, qui sont des comités d'experts indépendants en vaccinologie, en virologie, qui se sont réunis pour décider... en gros, si la balance bénéfice-risque valait le coup pour le vaccin ou pas. Et donc, ils ont pris tous les chiffres. Tous ces chiffres-là se sont sortis à ce moment-là. Et ce sont effectivement, ils ont remis tout en perspective, en fait, vraiment toutes les données des vaccins, des essais cliniques, du Covid, la mortalité, les hospitalisations, etc. Et effectivement, le Covid s'est trouvé comme étant la 8e cause ex aequo avec les suicides, je crois. Pour les enfants de cette tranche d'âge-là.
Qui est très jeune, en plus.
Ouais. Ouais. Après, il y avait beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a aussi... c'était quoi le... Oui, le fait qu'il y avait 68% seulement des enfants hospitalisés pour Covid qui avaient au moins une comorbidité, ou un facteur de risque. Ça veut dire qu'il y a... Il y a 32% des enfants qui ont été hospitalisés pour Covid qui ont zéro facteur de risque. Parce que ça, souvent, on entend aussi souvent, c'est des enfants qui ont des problèmes de surpoids ou qui sont obèses. Alors oui, il y en a, mais il y a aussi 32% des enfants qui ont zéro facteur de risque et qui se retrouvent à l'hôpital à cause du Covid.
Ça, c'est des chiffres américains. Un enfant sur 3 hospitalisé pour Covid, il avait a priori pas de problème.
C'est ça. Et ça, c'est les chiffres américains. Après, en France, je ne sais pas exactement quels sont les chiffres parce que je ne les ai pas vus. Mais ça, c'est des chiffres qui sont sortis. Je ne les ai pas inventés. Hein. Ils sont disponibles en ligne. Si vous voulez aller lire les 82 pages du rapport du VRBPAC, ils sont disponibles. C'est public. La réunion est publique aussi.
La réunion était
rediffusée sur YouTube en direct. Les gens pouvaient même poser des questions s'il y avait un système de... tu pouvais poser une question si tu avais une question, etc. Et c'est toujours en ligne. Hein, donc,
je mettrai le lien dans les
ça notes. Ça a duré 8 heures, si vous avez le temps. Il y a 8 heures de réunion.
En anglais.
Les experts ont discuté des données, etc. pour justement décider si ça valait le coup ou pas de faire vacciner cette tranche d'âge-là. Et puis, ça a été, ils ont voté. Il y a eu une abstention et tous les autres experts ont voté pour la vaccination. Ça, c'était du côté de la FDA. Et après, il y a eu un autre meeting avec d'autres experts du CDC cette fois. Parce que c'est vraiment très. C'est toujours le même système. Hein. D'abord, la FDA, une fois que l'extension de l'approbation du vaccin, enfin, de la mise sur marché du vaccin pour cette tranche d'âge est autorisée par la FDA, alors ça passe au CDC, qui lui réunit ses propres experts indépendants, pareil, toujours un autre comité, un autre panel d'experts, qui se re-réunit pour savoir en gros ce qui décide s'il faut en gros, ce qu'il recommande d'administrer à tout le monde, tous les enfants, ou juste aux enfants qui ont des facteurs de risque, ou j'en sais rien, moi, des enfants qui sont immunodéprimés, ça peut être plusieurs. Ils ont recommandé le vaccin pour tous les enfants de 7, 5 à 11 ans sans restriction. Voilà. Et ça a duré, je crois, encore 3 ou 4 heures. Et c'est pareil, c'était en direct aussi. Enfin, je crois que c'était sur YouTube aussi.
Et eux, ils avaient été unanimes, c'est ça ?
Et eux, ils ont été unanimes, ouais. Ils ont voté unanimement oui pour tous les enfants sans restriction de 5 à 11 ans. Voilà. Et tout ça, pourquoi ? Parce que aussi, les risques liés au vaccin étaient, en tout cas, mis en évidence par les essais cliniques, était quand même assez faible. Quoi. Il n'y a pas eu de effets secondaires graves déjà. Il y a pas eu de. On a, bon, après le panel, le nombre d'enfants enrôlés dans les essais cliniques était quand même assez faible. Donc c'est difficile de voir les effets secondaires graves parce qu'en général c'est des trucs qui apparaissent 1 sur ou 10 sur 1 million. Donc c'est difficile. On peut pas enrôler 1 million d'enfants dans un essai clinique, c'est impossible. Voilà, donc ça c'est. Mais bon, il n'y a pas eu d'effet. Il y a eu moins d'effets secondaires que chez les adultes, par exemple. Pour les enfants, en tout cas, dans cet essai clinique-là, c'était moins fréquent, les effets secondaires. Entre autres, parce que peut-être sûrement même parce que la dose était plus faible. Il y avait un tiers, on y a seulement un tiers de la dose d'ARN messager qui a été administrée en phase 3. Ils ont fait plusieurs tests de dose en phase 1 et 2, je crois que c'était la phase 2, et pour justement déterminer quelle dose ils allaient choisir, qui allait donner une réponse immunitaire suffisante, mais sans trop d'effets secondaires. Parce que le système immunitaire, encore une fois, je l'ai déjà expliqué, mais c'est pas une question de poids, c'est vraiment plus une question de maturité du système immunitaire. Les enfants ont un système immunitaire qui est quand même assez différent du système immunitaire des adultes. Et nous, pareil, on a un système immunitaire différent de, par exemple, des personnes âgées qui ont un système immunitaire plus ralenti, un peu moins performant. Donc, c'est difficile de comparer physiologiquement un enfant directement d'un adulte. Et c'est pour ça qu'ils réagissent très, très bien, développent assez facilement une bonne réponse immunitaire. C'est pour ça qu'il y a moins besoin de leur donner une dose importante. Donc, ce n'est pas une question de poids, c'est plus une question d'état
du système immunitaire. D'efficacité du système immunitaire.
Ouais, et donc 10 microgrammes, c'est suffisant pour un. D'ailleurs, les cliniques ont montré une efficacité plus de 90% dans la prévention des symptômes de Covid. Donc,
avec le variant Delta.
Avec le variant Delta, parce que ça a été fait cet été pendant la circulation du variant Delta qui était majoritaire. Voilà, c'était fait dans plusieurs pays différents, pas qu'aux États-Unis. Il y en a eu en Europe aussi. Il y a eu des centres en Europe. Ils avaient plusieurs centres, hein. Ils n'ont pas enrôlé tout le monde, mais tout le monde aux États-Unis, mais il y avait plusieurs centres. De toute façon, le Delta était majoritaire en Europe et ici aussi. Donc voilà.
Et donc, ouais, les enfants, ils ont un tiers de la dose adulte.
C'est ça. Final. Entre 5 et 11 ans. Et les adolescents, pour l'instant, c'est toujours aussi la dose adulte. Et alors, évidemment, une fois qu'il est mis sur... Maintenant qu'il est mis sur le marché, ils vont monitorer tout ce qui est myocardite, péricardite, choc anaphylactique, même si c'est extrêmement rare. Ça peut arriver, hein, comme avec tout médicament, même avec tout aliment, ou même toute chose, j'ai envie de dire. Mais mais bon, ça va être maintenant qu'on est en voilà, c'est la pharmacovigilance qui prend le relais. Et s'il y a le moindre effet secondaire, bah, il faut le faire remonter à la pharmacovigilance. Et après, c'est eux qui font leur enquête si jamais il y a un signal de sécurité, etc. Mais les experts l'ont discuté d'ailleurs parce que c'est quand même l'inquiétude de numéro un, parce que ça, chez les adolescents, il y a eu quand même quelques cas de myocardite, même si c'était assez rare. Et souvent, ça s'est résolu de soi-même, hein, entre guillemets. C'est des trucs où les enfants ont récupéré assez bien. Mais c'est quand même des choses qui inquiètent, et c'est normal quand t'es parent, t'as pas envie que ton fils ait une myocardite ou une péricardite, etc. Mais ils ont mis en balance aussi avec les myocardites du virus qui sont.
C'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Fréquentes. Parce que, voilà, quand on a le Covid, en fait, ces myocardites sont encore plus. Probables.
Ça a été montré que oui, le risque de faire une myocardite quand on est infecté par le virus est plus important que quand on se fait vacciner de toute façon. Voilà. Et puis surtout, les experts ont aussi discuté du fait que comme il y avait un tiers de la dose et que c'était sûrement les myocardites étaient sûrement liées à la réaction immunitaire, l'hypothèse c'est qu'il y aurait en fréquence moins de myocardites parce que la dose est inférieure, donc la réaction et l'amplitude et la fréquence des effets secondaires déjà durant les essais cliniques était moins fréquent que chez les adultes, pardon, chez les enfants. Du coup, voilà, ça laisse à penser qu'éventuellement la fréquence des myocardites, qui était déjà rare chez les adolescents et chez les jeunes adultes, devrait être encore plus rare chez les enfants. Mais bon, ça reste encore une hypothèse qui reste à démontrer, mais c'est le raisonnement qu'il y a eu, entre guillemets, durant les réunions pour prendre cette décision-là.
Donc, il faut savoir que le vaccin donc, est maintenant disponible aux États-Unis depuis vendredi.
Ouais. Même pas.
Même pas, hein, parce que c'était vendredi ou jeudi la semaine dernière.
Je crois que la décision, elle est prise jeudi et ça a dû commencer vendredi.
Ouais, ils ont commencé de suite. Ils avaient déjà préparé les doses, je suppose. Et puis, ça c'était disponible vraiment instantanément. C'était assez incroyable, l'organisation. Moi, je pensais qu'il allait avoir un petit délai entre le moment où ils disent OK et puis le moment où ça allait être vraiment faisable. Et en fait, non, ça a été vraiment instantané, quoi.
Ouais.
C'était
mais tant mieux, hein.
Assez incroyable. Ouais, non, c'est...
Surtout avant les fêtes. Ils voulaient surtout... ils ont mis ça en place rapidement aussi parce qu'il y a les fêtes de Noël qui approchent. Thanksgiving, ils voulaient être sûrs que les enfants soient protégés, notamment parce qu'ils vont forcément y avoir des réunions de famille, etc. Donc, évidemment, le risque est plus grand quand tu rencontres d'autres familles, etc. Et comme il y a 3 semaines entre 2 doses, et qu'après, il faut, pour le maximum d'efficacité, il faut attendre encore 2 semaines après la deuxième dose. Alors, ça fait 5 semaines de délai, quoi.
Ouais. Ce qui va être nickel pour Noël, du moins. Thanksgiving, ça sera juste pour avoir la deuxième dose. Et puis, après Noël, au moins, ils seront bien protégés, quoi.
C'est ça. D'accord. Et en Californie, ils pensent le mettre obligatoire. Hein.
Oui. Enfin, Newsom, on le précise, ouais.
Il l'a annoncé. Il a, normalement, il devrait mettre la vaccination obligatoire pour l'école, comme déjà d'ailleurs un paquet de vaccinations qui sont obligatoires pour
nous avons la varicelle ici.
La varicelle, ouais. Ouais, la varicelle, puis tout le reste, quoi. Voilà, c'est comme ça.
Donc, en fait, si nos enfants veulent si on veut continuer de mettre nos enfants à l'école publique californienne, pardon, on est obligé, dès la rentrée prochaine, de les faire vacciner.
A priori, c'est ce qu'il a annoncé. Je ne sais pas si c'est passé déjà ou s'il l'a juste annoncé.
Pas du tout. Je sais que c'est sorti. Je sais que ça m'a même étonné que ce soit aussi loin.
Ouais, moi aussi.
C'est août 2022.
Ouais, surtout qu'on ne sait pas trop ce que le virus va devenir d'ici là. Mais encore une fois, c'est des décisions politiques, ça. Donc, c'est vrai que je n'ai pas trop suivi.
Non, je suis plus les papiers.
Ouais. Non, je suis plus les publics, les trucs scientifiques, les décisions politiques. Mais voilà.
Ok. Aurais-tu quelque chose d'autre à ajouter?
Non, je pense que j'ai tout couvert.
Est-ce que du coup, avec cette vaccination infantile, il y a des pronostics de fin du virus ou pas du tout, ou ils font pas du tout de projections par rapport à ça?
Non, je pense que c'est difficile de voir. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Enfin, ça va dépendre de déjà combien d'enfants se font vraiment vacciner. Ça va dépendre de la durée de vaccination pour les adultes comme pour les enfants. Ça va dépendre de combien de personnes font leur troisième dose. Ça va dépendre de
peut-être des variants aussi.
Ce que devient le variant Delta, ce que j'allais dire, est-ce qu'il va encore muter pour devenir un autre variant, ou est-ce que ça va se stabiliser et du coup on l'a réussi un peu à l'éclater quoi, en gros, et la vaccination a bien ralenti sa course et du coup il a moins de chances de devenir autre chose. C'est vraiment imprévisible. Il y a plusieurs modèles qui ont été faits. J'avais mis ça en story. Il y avait des modèles où justement l'implication de la vaccination des enfants sur la santé publique, où il y avait justement, ils avaient fait plusieurs modélisations avec ou sans nouveaux variants, avec ou sans vaccination des enfants. Et il y avait plusieurs. Alors s'il y avait l'effet le plus positif de vaccination des enfants, le plus dramatique, était observé quand s'il y avait un nouveau variant. S'il y avait un nouveau variant, alors la vaccination des enfants allait empêcher ce rebond là, ce repic, cette nouvelle vague quoi, entre guillemets. Ouais. En comparaison à nouveaux variants sans vaccination des enfants. Mais bon, encore une fois, c'est des modèles, hein. C'est difficile de paralléliser directement le truc, d'extrapoler. Enfin, ça reste des trucs théoriques, quoi. La théorie, la pratique, c'est pas toujours. Et puis, il y a toujours des données que tu maîtrises pas. Il y a beaucoup de sélection naturelle là-dedans, donc c'est un peu compliqué de prédire. On peut pas prédire ce qui va devenir.
Non.
C'est difficile. Donc, mais après, c'est sûr que c'est un pas de plus vers la fin de cette histoire. Hein. En tout cas, c'est pas un pas en arrière, ça c'est sûr. Ça va forcément être bénéfique pour la santé publique. Après, sur quelle amplitude ou dans quelle mesure, ça c'est difficile de le savoir à l'avance. On avance en temps réel. Ça, les gens ils ont du mal à comprendre, mais les scientifiques sont pas des devins quoi. Mais, les décisions, les données, elles sont analysées en temps réel. Et, ou même avec un. Le virus a toujours un train d'avance sur nous. Hein, parce qu'on analyse le truc une fois. On va découvrir le nouveau variant une fois qu'il sera déjà là. C'est ça que.
C'est ça.
C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Mais bon.
Et juste un petit truc aussi que tu avais partagé, que j'avais trouvé très intéressant. Souvent, on nous dit que. Voilà, on a pas de recul et que dans 1 ou 2 ans, tous ceux qui sont vaccinés, ils vont être malades, ils vont, voilà. Et tu avais partagé un tableau qui disait que dans l'histoire des vaccins, il n'y a pas eu, arrête-moi si je me trompe, mais il n'y a pas eu de vaccin dont des effets graves ont été repérés au-delà de 8 semaines après la vaccination.
Ouais. Ouais, ça, c'est, y a pas, c'est pas comme un traitement qu'on prend sur le long terme, c'est, le vaccin, il va agir quelques jours dans votre corps. Ce qui va rester, c'est votre système immunitaire qui aura reconnu qui pourra être capable de reconnaître le virus. Mais le vaccin en lui-même, il va disparaître très rapidement, quelques heures, quelques jours maximum. Donc, il n'y a aucune raison de croire qu'il puisse induire des effets à long terme. Tout ce qui était autisme, sclérose en plaques, tout ça, ça a été largement démenti et prouvé. Il n'y avait pas de lien de causalité entre le vaccin. Les vaccins, dont le vaccin contre l'hépatite B justement qui était en cause, et ces maladies-là, enfin ces troubles-là. Voilà. Après, il y a, ça vraiment, les effets secondaires graves, ils sont la plupart du temps rares et ils apparaissent très rapidement, quelques semaines après. Par exemple, les myocardites ici, là, c'est un effet secondaire qui est caractérisé comme grave et rare. Ça apparaît dans les 2 semaines, pas 6 semaines après quoi. Et ça disparaît. Et pas 3 ans après. Il n'y a pas de raison non plus qu'il y ait des cancers ou je ne sais pas ce qu'on peut lire comme conneries sur Internet, mais il y a aucun. Et puis il n'y a même aucun mécanisme biologique qui pourrait expliquer ça. C'est vraiment même si on voulait tordre le truc comme on veut dans notre tête, il faudrait vraiment enfin j'en sais rien, et c'est étant donné que les éléments du vaccin ils restent pas, il y a aucune raison d'imaginer biologiquement que ce soit possible que ça induise, je sais pas, des cancers ou des maladies chroniques. Souvent ce sont les liens, les gens pensent qu'il y a un lien parce que ça apparaît après un vaccin, mais souvent il y a pas de causalité, il y a une corrélation, enfin, corrélation mais pas causalité. C'est-à-dire que c'est apparu après, mais sans lien avec le vaccin. Et ça, il y a plein d'exemples. Et comme on vaccine l'ensemble de la population, il y a forcément des gens qui vont décéder après la vaccination, qui vont, je sais pas moi, qui vont se découvrir un cancer après la vaccination, mais sans qu'il n'y ait de lien avec la vaccination.
Est-ce que tu peux nous rappeler combien de personnes sont vaccinées actuellement ?
Il y a plus de 7 milliards de doses. Donc, en termes de personnes, en théorie, ça dépend parce qu'il y en a qui ont eu 3 doses, mais il y a plus de 7 milliards de doses qui ont été administrées dans le monde.
Incroyable. 7
milliards. Plus de 7 milliards, je crois que c'est 7 points quelque chose, je ne sais plus combien. C'est historique. C'est pour ça que tous les effets... S'il y avait des effets secondaires graves, autres que ceux qui ont déjà été repérés, je ne suis pas en train de nier qu'il n'y en a pas, il y a eu... Notamment avec les vaccins à vecteurs viraux, il y a eu des cas de thrombose qui ont été assez rapidement mis en évidence, rares. Et c'est très rare. Ces personnes jeunes, notamment, c'est pour ça qu'ils ont, notamment en France, ils ont recommandé plutôt un vaccin ARN messager chez les personnes plus jeunes. Les myocardites, souvent chez les hommes jeunes, après la deuxième dose. Mais il n'y a pas eu d'autres trucs, quelques cas aussi d'allergie à certains composants du vaccin, mais c'est hyper rare aussi. Je crois que c'était, je ne sais plus combien de cas sur un par million de doses, mais c'était, je crois que c'était moins de 10. Enfin, c'était vraiment, vraiment extrêmement rare. Et de toute façon, c'est des choses qui apparaissent. Le choc anaphylactique, il apparaît dans les 30 minutes. Post-vaccin. Donc, c'est pour ça qu'on reste 30 minutes après la vaccination sous surveillance, au cas où. Et ça se traite, c'est pareil. Ça se traite sur place. Voilà. Et c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Mais 7 milliards de doses. Donc, s'il y avait vraiment des effets secondaires catastrophiques, parce qu'on a aussi entendu parler d'ADE, par exemple, qui est, je vais le traduire en français, mais c'est. Je ne sais plus comment on dit en français. En anglais, c'est Antibody Disease Enhancement. C'est en gros la maladie qui devient pire à cause du vaccin. Si jamais tu rencontres le virus, qu'il y a une rumeur qui a circulé chez... Bon, c'était une fake news, hein, mais... En gros, il disait que si jamais vous étiez infecté avec le virus, ça allait être pire si vous êtes vacciné que si vous n'êtes pas vacciné. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle le phénomène ADE, qui a été observé chez certains vaccins en développement. Enfin, voilà. Mais pas du tout avec les vaccins contre le Covid. Il n'y a aucun signe d'ADE après plus de 7 milliards de doses. Donc, s'il y a vraiment un problème, ouais. Je pense que 7 milliards de doses, ce serait assez. Alors après, on peut croire qu'il y a un complot, que tout le monde nous cache. Bon, peut-être qu'on nous cache 7 milliards de personnes, de doses qui ont été injectées, mais bon. À ce moment-là, on peut tout imaginer, quoi.
C'est ça. Écoute, merci beaucoup, Océane. Pour ces éclaircissements.
Mais de rien.
On va voir ce que ça donne pour l'Europe et pour le reste du monde. Donc voilà, j'invite les gens qui s'intéressent à tout ce qui est virologie, Covid ou autre d'ailleurs, à te suivre sur ton compte Instagram qui est hyper ludique, hyper vulgarisé pour les gens qui, comme moi, n'y connaissent absolument rien. C'est accessible à tous, c'est compréhensible et c'est appréciable. Parce qu'on n'y connaît rien, tout simplement, et c'est rassurant, surtout. Voilà. Et écoute, je te remercie beaucoup de ton temps, parce que je sais que tu es une personne très demandée maintenant, au vu de ton succès.
C'est toujours le temps pour toi.
Ah, t'es gentille. Mais bon, merci beaucoup en tout cas. Et puis, si vous avez des questions, je vous laisse lui poser directement sur son Instagram. Elle y répond toujours, à partir du moment où c'est... C'est bien posé avec respect et gentillesse.
C'est ça.
Écoute, merci beaucoup. Et puis,
merci.
À plus sur les réseaux.
J'espère que c'était clair.
Oui, je pense que c'était
clair. Il est tard, alors je mâche un peu mes mots.
Non, c'est bon, t'inquiète pas. Okay, merci beaucoup.
De rien.
CES
raconte ça.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.